bonjour à tout le monde. Je me lève pour vous accueillir. On est, ça va mieux? Voilà, donc bonjour à tout le monde. Je m'appelle Valia et simplement j'ai accepté de modérer ce débat parce que je crois qu'on a une grande richesse qui peut se développer à partir des intervenantes et de la salle aujourd'hui. Je travaille à l'université de Lyon 2 et mes problématiques spécifiques de recherche qui me permettront peut-être d'intervenir au-delà de la modération, c'est de travailler en sciences de l'information et de la communication avec une spécialisation sur le langage et les médiations. Voilà pourquoi donc nous avons souhaité organiser ce débat avec quelques temps différents. D'une part, nous avons trois personnes qui sont venues présenter pour Marie-Joseph de Villiers donc la coordination lesbienne nationale qui s'exprimera en début. Ensuite, Nathalie Sarla qui va intervenir pour l'association SOS Homophobie. Et enfin, nous avons Geneviève. Pardon, Bernadette, je t'appelle Geneviève depuis hier, je suis désolée. Bernadette Deleu, qui va intervenir pour l'association L'Autre Cercle, donc sur les questions d'homophobie dans l'entreprise, au sein du travail. Je dois excuser Stéphanie Arc, qui s'était engagée à venir, qui a une actualité, on va dire, de sociologue sur un livre, un ouvrage qui s'appelle « Les lesbiennes, idées reçues », que vous avez peut-être déjà vu, et qui travaille justement sur les idées reçues sur la lesbophobie dans la société. Elle s'excuse, elle a un ouvrage qu'elle est en ce moment même à Paris en train de dédicacer, etc. Il y avait la sortie de son bouquin à Paris en même temps que cette conférence. Donc elle s'excuse. Et on va donc séquencer un petit peu à partir de ces trois associations. D'abord une présentation, 14h30, on a jusqu'à 16h30 ensemble. Une première présentation et puis nous donnerons au terme des 10 minutes de présentation peut-être la parole très rapidement pour qu'il y ait débat à l'ensemble des personnes qui souhaitent intervenir. Dans la première partie, peut-être centrée sur chacune des associations, on va faire ce petit rituel, et puis l'expérience sur la lesbophobie, la façon dont elles ont avancé, évolué. Et enfin, en deuxième grande partie, j'imagine que dans la salle, il y a des gens qui souhaiteraient peut-être témoigner, prendre la parole pour un propos et peut-être interroger certaines associations plus spécifiquement. Donc là, on ira vers un débat un petit peu plus interactif. Dans la façon dont chacune peut répondre. On s'arrêtera 15 minutes avant au niveau de notre timing pour que nous ayons le temps peut-être de voir comment un tel débat peut influencer un petit peu mutuellement les réflexions. Et ce que je souhaitais mettre en route, c'est la façon dont peut-être on peut ouvrir des perspectives ensemble sur ces questions-là, puisque c'est quand même un sujet qui deviendra certainement, j'espère, essentiel. Alors peut-être Marie-Joseph, je te laisse la parole pour la coordination lesbienne.
Oui, je suis ravie de vous voir toutes. Je suis tellement ravie d'être ici avec vous et que vous soyez, qu'on soit toutes ensemble. J'espère qu'on va se connecter et garder le contact. Alors moi, je suis... Un petit peu ancienne, et donc j'aime bien aussi repartir dans l'histoire des concepts, comment est-ce que les choses arrivent. Donc ce que je vais faire là, ça va être simple, c'est repartir de la création du concept de lesbophobie, juste vous rafraîchir la mémoire pour celles qui ont peut-être oublié, les autres vous informer, et puis ensuite je vous présenterai un peu comment la coordination lesbienne travaille sur la lesbophobie, intervient sur la lesbophobie, avec un programme qui, vous l'avez vu, est ici super costaud, puisqu'il s'agit d'éradiquer la lesbophobie. Donc je compte sur vous toutes pour qu'on y arrive ensemble. Et quand on dit la coordination, en fait, la coordination lesbienne, c'est pas moi, c'est vous toutes. Association qui est investie dans des organisations lesbiennes ou pas. Moi, je ne suis... Enfin, l'équipe que nous sommes, ne sommes que chargés de coordonner et de faire en sorte que ça connecte partout et qu'on puisse travailler ensemble. C'est juste pour éviter souvent une méprise, c'est-à-dire qu'on nous prend pour des grandes chefs présidentes, alors qu'on n'est pas du tout ça. Nous, on est un réseau où chacune est au même niveau. C'est ça qui nous importe. Voilà, c'était juste un petit préambule. Et maintenant, je fonce sur le sujet. Alors, le concept de lesbophobie, Voilà, le concept de lesbophobie, il est né en fait dans les années 90. Deux raisons. Toujours cette fameuse invisibilisation des lesbiennes et puis cette impression d'être faussement noyée dans ce concept faussement d'ailleurs universaliste d'homophobie. Cette réaction, on la comprend toutes, je crois. Et le terme lui-même, lesbophobie, après avoir erré sur lesbianophobie, s'est stabilisé sur lesbophobie en 1998 et on le trouve dans le rapport détaillé sur la lesbophobie dans le monde qui est présenté par nos amis de Rennes à Montréal à l'occasion de la préparation de la Marche mondiale des femmes. C'est là où il apparaît la première fois. Ce terme, quand il apparaît, répond à un vrai besoin de nommer une discrimination qui est spécifique aux lesbiennes. Et ce terme s'étoffe d'une définition. Mais c'est en fait un autre événement qui va le populariser. Et là, on remonte encore dans l'histoire. Le 31 janvier 1999, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette date, mais à Paris, les manifestants anti-pax scandent les PD au bûcher, elle est lesbienne, au Karcher. Pardon, au lance-flamme. Elle est lesbienne, au lance-flamme.
Bon.
Excusez-moi, par Karcher, c'était après le Karcher.
Il y a quelqu'un d'autre. C'est après ça.
Alors, en réponse à cette situation, des partis politiques, en particulier les Verts et le PCF, et un collectif d'associations mixtes élabore des propositions de loi pour lutter contre l'homophobie. Or, dans les propositions de loi, l'exposé des motifs ne prend en compte que les violences faites aux gays. La CLF se met en colère et décide à ce moment-là de créer le terme lesbophobie et de l'étayer pour rendre visibles les discriminations et les violences dont sont victimes les lesbiennes. Parce qu'en plus, il faut savoir que dans cette même période, au sein de la coordination lesbienne, il y a une équipe qui accompagne une jeune lesbienne qui était victime de viol collectif. Ça s'est passé à Montreuil, de viol collectif. Et c'est la coordination qui l'accompagne et qui est au plus près de cette épouvantable violence. Et cette situation fait que donc il faut réagir. Il faut réagir. Et on constate qu'en fait, ce terme est très vite repris par la sphère militante, avec le rapport contre la lesbophobie qui est lancé en novembre 2003 par l'association SOS Homophobie. Le terme passe ensuite dans les médias. Quand on est dans les médias, on sait que ça va marcher. Et qui en 2010, il faut quand même 7 ans, qui en 2010 couvre pour la première fois assez largement les procès de Segré et d'Épinay-sous-Sénart, qui sont deux cas patents de lesbophobie. Et c'est à ce moment-là que le terme passe dans le grand public. Et interrogé, les lesbiennes apprécient le mot parce qu'il identifie les réalités auxquelles elles sont confrontées. Elles les libèrent du recours au terme homophobie qui noie leur existence dans cet universalisme qui est assez stérile. Au Forum social européen en 2004, les Italiennes, les Allemandes ont accueilli ce concept avec enthousiasme parce que ça correspond à la réalité de leur vie. C'est ce qu'elles expriment à ce moment-là. Vous connaissez, je pense, toute la définition de la lesbophobie. Je l'ai affichée pour qu'on se fasse plaisir. Elle est publiée un peu partout, donc vous la retrouverez simplement. On insiste toujours sur les deux aspects, la double discrimination au travers de la lesbophobie. Et maintenant, passons à l'action. Alors, voilà ce qu'on aime, ce qu'on fait et ce qu'on aimerait faire. Et j'attends vraiment le débat qu'on aura après, vos contributions en matière d'idées. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Comme on a fait émerger ce concept de lesbophobie en 97, on a continué. Et le concept émerge en 97 et en 2005, l'une des associations de la coordination qui s'appelle CQFD Fierté Lesbienne décide de consacrer les excédents qu'elle a accumulés lors de fêtes de la fierté qu'elle organisait tous les ans à Paris. Elle décide de consacrer ces excédents au financement des honoraires d'avocates en cas de procès, en cas de lesbophobie. C'est comme ça qu'on a, que CQFD Fierté Lesbienne a pu soutenir une dizaine de cas jusqu'à ce jour. Le dernier cas, d'ailleurs, étant en cours et nous travaillons avec main dans la main avec l'autre sexe. C'est un cas de lesbophobie au travail, dont je vous dirai peut-être un mot. Et nous travaillons main dans la main sur ce cas avec l'autre cercle qui est plus, plus costaud que nous, disons, sur les questions de lesbophobie au travail. Voilà. Alors, quand on dit agir, donc on a cet aspect financement. Et puis aussi, dans la façon dont on a d'agir, nous, on a pris un parti pris, c'est de considérer que dans les cas de lesbophobie, on en a rencontré beaucoup. On a même fait une espèce d'étude et on s'est rendu compte que ces cas de lesbophobie, quand on arrive jusqu'au procès, on en a absolument dans tous les milieux. Dans le 16e arrondissement, dans tous les milieux, quelles que soient les couches sociales. Et contrairement à ce que d'aucuns prétendent dans le milieu LGBT. Voilà. Simplement, ce sont peut-être les formes qui diffèrent. Et on a suivi cette piste parce que lors d'une action qu'on a soutenue, où nous étions en partie civile, il y avait un couple de jeunes lesbiennes qui étaient au pied de leur immeuble, systématiquement harcelées, injuriées, jusqu'à ce qu'on arrive à la violence physique. Elles ont porté plainte. Nous les avons appuyés à la fois financièrement et nous sommes portés partie civile. Nous, quand on a vu, il y avait incriminé, il y avait un adulte, deux ados. Quand on a vu dans l'état de déréliction dans lequel se trouvaient ces deux ados, évidemment, nous avons demandé le franc symbolique, comme dommages et intérêts. Et nous avons tenté une action dont nous sommes très très fiers, c'est-à-dire que nous nous sommes dit, ces deux ados, ils n'ont jamais rencontré dans leur vie ni lesbienne ni gay. Essayons plutôt que... Parce que le procès, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner des travaux d'intérêt général. On va leur demander quoi? De peindre des murs en blanc, en vert, et après. Qu'est-ce qui aura changé dans leur vie? Rien. Donc on s'est dit, on va faire une action spécifique, on va essayer de faire, créer un module de sensibilisation en passant des courts-métrages, en montrant des réalités documentaires, au travers de documentaires, qui montreront vraiment l'existence de homophobie et lesbophobie. On a fait cette opération avec l'association Contact et, aux surprises, alors que pour la juge des enfants, là, on ne peut proposer de module de sensibilisation que si on est labellisé. Eh bien, dans notre cas, le tribunal pour enfants a accepté notre proposition et nous avons pu mener jusqu'à un certain point cette action. Malheureusement, les deux jeunes en question... L'un n'a jamais eu le courage de franchir la porte de l'endroit où on l'attendait. Erreur, il aurait fallu aller le chercher, mais ça on apprend en faisant. Et le deuxième était tuberculeux et a dû être hospitalisé en sanatorium d'urgence. Voilà, donc notre affaire s'est arrêtée là, mais on aime bien l'idée. Et il faut savoir que dans le même temps, d'autres associations LGBT, elles, étaient dans le discours... Eh bien, ces jeunes-là, ceux-là, ils ne comprendront que si ça passe par leur porte-monnaie. Et donc, ils ont exigé des dommages et intérêts exorbitants. Voilà. Donc, c'est pour montrer les différences d'approche. C'est un point important parce que c'est là où on voit que l'approche des lesbiennes et l'approche des LGBT en général et des gays peut différer. Aussi, une autre action, ça, Jocelyne, notre camarade et amie, n'est pas ici, mais elle a passé 10 ans, presque 10 ans de sa vie, pour faire en sorte que les violences faites aux lesbiennes soient intégrées parmi les violences faites aux femmes. Maintenant, on y est arrivé. Et on est main dans la main avec les organisations féministes. Mais on travaille sur la lesbophobie ici. Mais les violences lesbophobes... Alors, juste une petite chose, c'est la lesbophobie est un terme extrêmement limité. Aujourd'hui, nous, on parle plutôt de violences lesbophobes. Et je dois dire que même le terme de lesbophobie, avec tous ces nouveaux termes en phobie, c'est loin de nous satisfaire. Et il y a récemment, par exemple, quelqu'un du CRAN, le collectif... je ne sais plus quelle est la définition du CRAN. En tout cas, des associations... qui sont fédérés des associations de personnes de couleur, de gays de couleur, essentiellement, de gens de couleur, qui sont fédérés dans le CRAN. Et j'ai entendu quelqu'un dire à la radio, mais nous, on en a ras-le-bol du terme racisme, on veut entendre haine contre les Noirs. C'est ce qu'on veut entendre. Et justement, l'une d'entre nous nous disait, mais lesbophobie, c'est mièvre, ce truc-là, ça ne correspond pas à la réalité. Et je pense qu'on pourrait parler maintenant de haine contre les lesbiennes, ce qui est beaucoup plus clair. Voilà. Appelons un chat un chat. Et il ne s'agit pas... Enfin, il faut agir ici, c'est sûr, mais il nous reste aussi à agir dans le monde. Notre responsabilité ne s'arrête pas à nos frontières. C'est ce dont nous sommes terriblement conscientes aujourd'hui. Et il y a plusieurs associations au sein de la coordination lesbienne qui interviennent en soutien aux lesbiennes demandeuses d'asile, des lesbiennes qui sont d'Ouganda, de Mauritanie, qui viennent de Cameroun, mais qui viennent aussi de Géorgie, et qui viennent aussi de Russie, et qui viennent aussi... trou de mémoire, voilà, d'autres pays. D'Arménie, merci, c'est écrit derrière. Vous suivez aussi bien, mieux que moi. Et la coordination, donc ces associations sont sur le terrain, et nous, on essaie juste de coordonner, de faire en sorte que l'information passe. Parce que si on apprend à Grenoble que, par exemple, quand on demande à une lesbienne de prouver qu'elle est lesbienne, comment faire ? Eh bien, quand elle est impliquée dans une association lesbienne, pour la Cour nationale des droits de l'homme ou pour l'Office l'OFPRA, ça marche. Donc, dorénavant, on sait faire des attestations, on sait montrer des photos où elles sont impliquées dans des actions. On a appris à faire tout ça ensemble. Voilà. Et aussi, on ne va pas s'arrêter là. On ressent très très fort le besoin aussi d'aller au-devant des associations lesbiennes qui, de façon totalement clandestine, se construisent sur le terrain. Et aux surprises, et aux bonnes surprises, c'est que quand on a lancé l'appel totalement général par le canal de la Marche mondiale Monde, par le canal de l'ILGA Monde, par le canal, troisième canal que j'ai oublié, eh bien, on a reçu des demandes de participation non seulement des associations, des organisations en Euro-Méditerranée, mais aussi, alors des choses qu'on ignorait totalement, d'une association de lesbiennes clandestines au Sénégal, d'une autre en RDC, d'une autre avec laquelle on travaille déjà depuis un an, la Lune travaille aussi avec, en Côte d'Ivoire, une autre au Bénin, une autre au Népal. Et donc, on est en train... Voilà, si on peut se projeter un petit peu en avant, on se disait cette année, on peut rêver, je rêve, deux minutes. Cette année, nous avons fait la rencontre des organisations lesbiennes en Euro-Méditerranée. Pourquoi pas, dans un avenir que je ne sais pas définir, essayer, dans un pays où les visas sont faciles à obtenir, ce qui n'est pas le cas ici, pourquoi ne pas essayer de les réunir elles aussi et de commencer un réseau avec elles. Voilà. Je vais m'arrêter là pour les actions, mais en tout cas, moi j'attends vos idées pour continuer.
Bien, alors sur la coordination lesbienne et les actions, est-ce qu'on peut voir s'il y a des questions, des demandes d'informations complémentaires ou des suggestions, puisque pour l'instant c'est ce qu'a demandé la coordination, qu'il y ait un échange déjà sur ce point, d'idées, de comment vous ressentez ces actions, est-ce que c'est surprenant, complet Qui veut prendre la parole ?
Oui, il faudrait peut-être voir ce qui se passe dans les ONG, les actions qui sont menées dans les ONG. Je me souviens que Mama Cash en Hollande a des actions spécifiques dans les pays du Sud pour les lesbiennes. Donc ce serait...
Evelyne, toi qui as des contacts avec Mama Cash, si tu pouvais faire le lien avec Mama Cash sur le sujet, ce serait top génial.
Voir si elles continuent à... Bon, ça m'étonnerait qu'elles aient arrêté leurs actions, mais bon, voir ce qu'elles font.
Parce que si je me souviens bien, Evelyne, Mama Cash était une organisation de femmes qui finançait en fait des projets de femmes, c'est ça ?
Oui, c'est une ONG hollandaise qui finance des projets pour les femmes, mais des projets qui sortent justement des sentiers battus. C'est-à-dire qu'elle ne finance pas, par exemple, des entreprises de filature, de tissage, etc. Mais elles vont financer des jeunes femmes qui vont vouloir apprendre à réparer des bicyclettes. Et elles aident aussi des lesbiennes, des jeunes lesbiennes à exister, à se défendre, etc.
D'accord. Donc, tu essaies de les contacter pour trouver des idées avec elles.
Où elles en
génial.
Sont.
Oui, parce que je sais que tu as des bons contacts avec elle.
Est-ce que quelqu'un souhaite, sur les actions de la coordination ?
Ou sur autre chose, hein. N'hésitez pas.
Hello. Yeah, it's okay. I'm from Uganda. I'm one of the refugees from Uganda, like trying to seek asylum here. I was suggesting, just in case you want to know more associations in Uganda, like if you want to send something or information, maybe they can go on the web, like Uganda Homosexuality. They'll see many, like two or three associations from there.
Voilà, je pense que tout le monde a saisi. Donc elle propose pour l'Ouganda, puisqu'elle arrive d'Ouganda, d'avoir un relais à partir du site internet et de deux ou trois associations en Ouganda qui peuvent travailler sur ces questions de lesbophobie.
Oui, Judith nous a déjà justement mis en contact avec Jacqueline Cacha. Cacha Jacqueline, comme elle s'appelle elle-même, qui est à la tête d'une organisation LGBT qui s'appelle Rome and Freedom in Uganda. Et qui fait un travail absolument exceptionnel dans un contexte dont on aura l'occasion de reparler demain, où en fait l'État est en train de voter ou va voter quelque chose qui s'appelle Kill the Gay Bill, la loi pour assassiner en quelque sorte les homosexuels.
Voilà une autre. Non, ça sera juste un petit mot sur les mots lesbophobie. C'est vrai qu'on a discuté un petit peu sur les mots haine des lesbiennes, un peu sur ce même sens, parce que dans la phobie, c'est quelque chose qu'on ne peut pas rien. Tu as la phobie des araignées, tu ne peux rien. Pendant que, je suis désolée, la haine, ça se nourrit, ça se cultive, il y a qui met de l'engrais même. Et donc, de là l'importance de nommer, comme tu disais bien, Marie-Joseph, un chat. Et c'est de la haine. On a lutté longtemps parce qu'à ce moment-là, la lesbophobie nous semblait le mot adéquat. Mais je pense qu'en tout ça qu'on a entendu, on est clair qu'on est loin d'une phobie. C'est de la vraie haine qu'on cultive et qu'on est responsable. Donc, le mot haine me semble intéressant de voir un mot qui soit joli peut-être, mais où la haine soit claire.
Oui, Michel. Moi, je suis d'accord. Je pense qu'il faut faire très attention à l'heure actuelle. On psychologise tout et on réduit tout ce qui est politique et je veux dire les agressions sexuelles sur 52% de l'humanité et les lesbiennes en particulier pour ce qui nous concerne aujourd'hui, qui sommes quand même aussi des femmes pour certaines. C'est vraiment politique. Et je pense que c'est vrai que lesbophobie, c'est vraiment une réduction très psychologisante qui nous renvoie à nous-mêmes quelque part. C'est vraiment très, très perverse aussi. Ça peut le devenir.
C'est peut-être juste une chance avant de te passer la parole. Si justement on n'a pas encore tout à fait les mots, c'est peut-être une chance et peut-être on peut retenir qu'il y aura un travail d'atelier, de réflexion ou de choses, parce qu'il faudra certainement nommer clairement à un moment donné et de façon internationale. C'est ce que je retiens un petit peu de ce qui s'est dit là, compréhensible pour qu'on puisse arriver à exprimer clairement, donc le nommer, ce qui nous rapproche dans cette homophobie, ouais. qui est le terme qui ne va pas à tout le monde du tout. Et ça, c'est peut-être un premier travail à.
Alors c'est vrai qu'on a deux temps, en fait. On a un premier temps où on passe par lesbophobie pour individualiser cette haine vis-à-vis des lesbiennes. Et ensuite, on va plus loin. C'est-à-dire on essaie de le nommer différemment. Et en regardant toutes les interventions donc des organisations qui viennent ces deux jours, jeudi et vendredi, chacune arrive à un moment donné à parler de ce concept. Et on se rend compte que, en fait, du côté finalement des Balkans, c'est peut-être là où elles utilisent ce terme. Après, en Turquie, non, elles n'utilisent pas. Enfin, c'est intéressant, on verra au cours des deux journées de demain comment celles qui utilisent ce terme, celles qui ne l'utilisent pas, comment ce terme se diffuse. Alors, c'est vrai qu'un temps, c'est passer d'homophobie à lesbophobie, ça c'est un pas en avant, et après, aller plus loin, passer de lesbophobie à un vrai terme. Alors certaines d'entre nous ont commencé à réfléchir, il faut repasser par je sais pas quoi, des racines grecques ou je sais pas quoi, enfin, trouver des idées quoi.
Voilà.
Mais trouver des idées.
Mais on peut garder en tout cas de ce débat déjà qu'il y a vraiment une piste de travail. Nathalie, tu nous parles quelques minutes.
Alors ben moi je représente l'association qui s'appelle SOS Homophobie, qui est une association qui lutte contre les LGBT-phobies, donc pour les lesbiennes, les gays, les bi et les trans. Donc c'est une association qui est mixte, qui existe depuis 1993 et qui a différents mode d'action par rapport à la lutte contre les discriminations face aux lesbiennes, gays, bi et trans. Donc la première activité d'SOS Homophobie, au départ, c'était une ligne d'écoute qui existe toujours. Il y a des personnes qui sont donc des écoutants qui sont formés à cette délicate tâche et qui peuvent écouter, aider et soutenir les victimes. Et ce travail-là, il est fait tout au long de l'année. On recueille des témoignages. Et à partir de ces témoignages, plus de témoignages qu'on a sur le net, on sort ce rapport sur l'homophobie en France, qui est vraiment une fenêtre sur l'état de l'homophobie en France. Alors, vous pouvez le consulter, il y a des rapports qui sont là-bas dans les stands. Il y a toutes les catégories qui sont expliquées pour chaque partie des populations. Et tous les environnements, les circonstances de l'expression de l'homophobie. Et SOS Homophobie, bon, comme la coordination lesbienne, a aussi des commissions avec des juristes pour trier les dossiers, voir comment on peut faire des actions en justice, se porter partie civile. Donc là, il y a une action qui est importante. Et à côté de ça, à SOS Homophobie, on a, au fil des années, on a vu que dans ce rapport contre l'homophobie, on ne comprenait pas très bien pourquoi seulement un témoignage sur cinq provenait de femmes, à peu près. Et ça ne change pas depuis 1997 que le rapport existe. Un témoignage sur cinq vient des lesbiennes. Donc c'est pour ça qu'on avait lancé à cette époque-là, en 2003, une première enquête sur la lesbophobie. Et on avait vraiment essayé de faire un travail pour aller chercher les femmes. Parce que moi, quand j'ai commencé à militer, c'est très récent. On me disait lesbophobie, double discrimination. Je ne comprenais rien à ce concept-là. Je n'avais pas beaucoup de culture par rapport à tout ça. Et donc, je ne comprenais pas ce que c'était cette histoire de double discrimination. Donc, bon, j'ai un peu avancé sur ce chemin depuis. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est que les femmes, en plus d'être lesbiennes, étaient des femmes. Et donc, elles avaient l'habitude de se taire. Donc cette première enquête qu'on avait faite à cette époque, donc il y a 10 ans, elle avait recueilli des témoignages de femmes essentiellement de la région parisienne. C'était une enquête qui était que sur papier à l'époque. Ça nous avait donné déjà beaucoup d'éléments, notamment que la lesbophobie s'exprimait particulièrement dans le milieu familial et dans les lieux publics. Et que dans le milieu familial, la première personne qui émettait de la lesbophobie, c'était la mère. Ça concernait toutes les femmes qui ont répondu quasiment. Donc, mais cette enquête à cette époque, elle avait des limites parce que peu de femmes répondaient, 1793 à l'époque, la région parisienne, et on s'est dit, bon, il faut qu'on refasse une enquête maintenant. Donc là, il y a une enquête qui est en cours, jusqu'au 20 juillet, donc il n'y a plus que 3 jours pour y répondre. Je vous invite vraiment à répondre à ce questionnaire. Il est ici sur papier, vous pouvez le trouver aussi sur le site de SOS Homophobie sur Internet. Ça prend 15 minutes de votre temps. Et c'est vraiment redonner encore de la visibilité aux lesbiennes, donner la parole aux femmes. Et moi, je me dis, c'est vraiment très important. J'étais hier chez moi, j'avais des amis à la maison, et je demande à une de mes amies lesbiennes si elle veut bien répondre à ce questionnaire. Elle me dit, mais moi, j'ai pas de problème de lesbophobie. Je lui dis, bah réponds, parce que si tu n'as pas de problème, c'est bien aussi qu'on sache qu'il y a des femmes qui n'ont pas de problème. Et donc, elle répond, et il y avait sa copine qui était à côté d'elle et qui lui dit, mais quand même, le voisin qui nous a insultés, on a quand même porté plainte. Et c'était incroyable, ça arrive tout le temps, ça arrive vraiment tout le temps. Donc en fait, ce qu'on avait vu sur la première enquête, c'est que la réponse des femmes à la lesbophobie, c'est souvent de s'adapter, c'est-à-dire de vivre, d'aller dans les lieux où elles rencontrent d'autres lesbiennes, de cacher leur orientation sexuelle, et comme ça, après, elles disent « on n'a pas de problème », sauf qu'elles sont complètement cachées. Donc ça, c'est pour une part de l'activité de l'association. Et il y a une autre activité dont je voudrais vous parler, moi qui me tient à cœur parce que je fais beaucoup ça, c'est que nous faisons des interventions à l'école. Donc nous allons rencontrer les élèves de collège et de lycée, en général 4e, 3e, seconde, disons 14, 15, 16 ans. Et donc on parle avec eux de toutes les LGBT-phobies, de la forme que ça prend, des conséquences que ça a. Et c'est des interventions qui se font sous forme de débat, qui sont très intéressantes, parce que vraiment on les laisse parler, on les laisse dérouler leur fil, ils ont le droit de mettre dans le groupe aussi des choses homophobes qu'ils pensent, et puis on déconstruit les idées reçues, on leur tourne les idées dans tous les sens. Et je voulais partager avec vous un peu mon retour par rapport à ça, parce que ça fait maintenant plus de 2 ans que je fais des interventions, j'en ai fait beaucoup. Et il y a plusieurs choses qui m'ont vraiment étonnée. Peut-être vous, ça ne va pas vous étonner, mais moi, ça m'a étonnée. C'est que, d'une part, par rapport à, aux lesbiennes, ils sont jeunes, ils sont vraiment au début de la découverte de la sexualité, mais ils ont déjà des idées sur les lesbiennes qui sont les idées que véhicule la société. Par exemple, on entend très souvent les lesbiennes, ça gêne moins que les gays parce qu'on a l'habitude de voir les filles se faire des petits bisous. Donc ils sont complètement dans la négation de la sexualité. Être lesbienne, c'est se faire des petits bisous. Ça, ils sont vraiment à cet endroit-là. Et moi, ça m'a vraiment étonnée. Je pensais pas que, si jeunes, ils étaient déjà dans le discours de la société. Et l'autre point sur lequel moi j'ai été... Ah oui, aussi sur la sexualité, l'histoire des garçons qui disent que les lesbiennes, c'est chouette parce qu'on peut se faire des plans à trois, c'est très souvent dit. Ils sont petits, hein, ils ont 14-15 ans, mais déjà, ils ont cette idée-là. Donc, on travaille, hein, on les laisse pas avec ça, comme ça. Et l'autre sujet qui m'a aussi beaucoup étonnée, c'est sur le fait qu'ils n'ont aucune culture par rapport au sexisme. Ils ne connaissent rien des luttes féministes, des luttes passées. Pour eux, il y a l'égalité des droits entre les hommes et les femmes, et ils pensent que c'est respecté. Et il faut vraiment, alors là, user d'artifices pédagogiques pour les faire réfléchir là-dessus. Moi, c'était le sujet que je pensais pouvoir aborder très facilement, et c'est le plus compliqué à leur faire sentir. Ils sont vraiment les acteurs du sexisme. Inconsciemment, ça commence à devenir conscient, cet âge-là. Et comme ils sont aussi, on peut aussi les... Moi, j'aurais tendance aussi à les excuser, parce qu'ils sont à un âge où on veut devenir grand comme les grands. Et comme les grands proposent ça, ils y vont. Hein. Mais ils ont vraiment peu de conscience de ça. Donc ça, c'est vraiment un sujet, moi, qui m'a vraiment, vraiment étonnée. Et puis, en plus... Finalement, moi, je me disais, je vais faire de la lutte contre l'homophobie, et je me suis dit, bon, il y a du boulot dans la lutte contre l'homophobie, évidemment, mais ils sont beaucoup plus informés là-dessus. Ils ont quand même suivi le débat qui s'est passé cet hiver, ils ont des idées, il y a toujours des groupes de jeunes qui vont avoir des propos homophobes ou qui vont dire leurs difficultés de compréhension. C'est pas tellement des propos homophobes, ils disent, j'ai du mal à comprendre deux garçons qui sont ensemble, ça me dégoûte, enfin, ils disent des choses et on peut en parler. Mais effectivement, ils sont beaucoup plus informés finalement là-dessus que sur le sexisme. Donc comme nous, on estime qu'on ne peut pas parler de LGBT-phobie sans parler de sexisme, et ben, on passe pratiquement moi, je passe beaucoup de temps dans les interventions sur ce sujet-là. Et bien sûr, quand on aborde la transidentité, le transgenre, et là, on a aussi tout un chapitre qui est intéressant. Et juste pour finir... C'est la directive de SOS Homophobie. Pour l'instant, on a un agrément national qui nous permet d'aller dans les collèges et lycées. Moi, je trouve que c'est trop tard. Je trouve qu'on devrait faire des interventions plus jeunes, parce que c'est plus facile d'ouvrir les esprits que de déconstruire des idées reçues. Et j'ai eu l'occasion cette année de faire une intervention dans une classe de 6e. Et lors des interventions, on a un petit moment où ils ont des petits papiers anonymes, ils peuvent poser toutes les questions qu'ils veulent, demander ce qu'ils veulent. Il y a un enfant, je ne sais pas si c'était un garçon ou une fille, qui a dit dans son petit papier, c'est très bien d'apprendre ça quand on est petit, parce que si un jour on devient homo, on n'aura pas honte. Et c'est vrai que ce petit papier-là, moi je me suis dit, ah, je suis très contente de faire ça. Ça m'a vraiment, vraiment motivée, et je me dis, il faut qu'on aille voir les plus jeunes. Vraiment très très tôt, ils ne sont pas du tout dans les mêmes concepts. Voilà, je vous remercie.
Merci. Est-ce qu'il y a des questions pour approfondir un petit peu ce que mène SOS Homophobie dans la salle ? D'accord.